Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Nicolas Paolorsi.
Il est 14h06 sur RMC, l'intégral sport jusqu'à 16h. On est avec vous tout l'après-midi. Vous êtes sur la route des vacances, au bord de la piscine ou au travail, hein, parce que tout le monde n'a pas la chance de profiter du soleil. Et bah, vous allez vous régaler sur RMC tout au long du week-end, parce qu'il y a plein de directs, de matchs, de médailles à venir. Ça commence par la deuxième journée de Ligue 1, hein, et le premier choc de la saison entre deux prétendants au podium, Monaco-Rennes. Ce sera à 17h et on va bien évidemment vous présenter ce match. À 21h, le Paris Saint-Germain affronte Montpellier avec le retour de Kylian Mbappé. La troisième journée de Ligue 2 avec le leader Guingamp qui affronte le Paris FC, c'est dans une heure. À 19h, le multi-Ligue 2, on sera sur toutes les pelouses avec les Girondins de Bordeaux qui vont jouer contre Niort. Et puis, je vous ai parlé de médailles parce que ce week-end, il y a les championnats d'Europe de natation à Rome, finale à partir de 18h. Il y a plein de chances de médailles françaises. Les championnats d'Europe multisport à Munich, en Allemagne, avec du cyclisme sur piste, de l'escalade, du triathlon, de la gymnastique. On a des chances de médailles partout. On sera avec nos reporters, hein, en Italie, en Allemagne, pour vivre ces événements. Si vous êtes dans les bouchons, vous l'avez compris, on va se régaler cet après-midi. Le programme est chargé. L'intégral sport, c'est parti. Et bien sûr, vous nous appelez, hein, le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio pour interagir avec nous. Avant d'accueillir Arthur Perrault pour présenter le match du Paris Saint-Germain ce soir contre Montpellier, je voulais vous dire que ça joue déjà en Première Ligue. Hein. Deuxième journée de Première Ligue, match entre Aston Villa et Everton. Aston Villa mène, match sympa pour les trentenaires. Fan de foot, puisque c'est Steven Gerrard sur le banc de touche qui affronte Frank Lampard. C'est pas mal. Ça peut mettre un petit coup sur le casque peut-être, parce que ça montre quand même qu'on vieillit. Mais match très sympa à suivre en Première Ligue. Arthur Perrault est avec nous. Salut Arthur.
Salut Nicolas, bonjour à tous.
Arthur, on va revenir avec toi bien sûr sur le match du PSG ce soir, deuxième journée de championnat. Oui. PSG-Montpellier, un Paris Saint-Germain qui a cartonné la semaine dernière contre Clermont, qui a cartonné lors du trophée des champions contre Nantes. Mais ce soir, il y a un événement quand même, c'est le retour de Kylian Mbappé dans le groupe.
Exactement, lui qui avait été écarté des terrains il y a maintenant une bonne semaine en raison de douleurs aux ischio-jambiers. Il fait son grand retour. Il a participé à l'intégralité des séances cette semaine du côté du camp des loges à Saint-Germain-en-Laye, et il est donc opérationnel et dans la composition probable pour cette rencontre ce soir face à Montpellier. C'est vrai que ça va être un premier gros rendez-vous pour lui, parce que on n'avait plus la percevoir dans ce nouveau système choisi par Christophe Galtier, le 3-4-1-2, avec donc devant Messi en électron libre, derrière Neymar et Kylian Mbappé. On avait vu ce trio en place du côté du Japon. C'est vrai que c'était encore cette phase d'adaptation.
Ouais, on restait un peu sur notre fin.
Exactement. Et on sentait que ça manquait de repères, que les trois essayaient de créer de nouveaux automatismes. Et là, c'est le premier gros test pour ce choix-là tactique, ce trio offensif. Donc, évidemment, ce sera à surveiller. On a forcément été séduit par les prestations de Messi et de Neymar lors du dernier match face à Clermont. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera lui aussi au rendez-vous de tous ces changements du côté du Paris Saint-Germain. Changement tactique.
Et vous avez posé la question à Christophe Galtier en conférence de presse, bien sûr, sur ce retour de Kylian Mbappé. On écoute l'entraîneur parisien.
Il a été certes perturbé dans sa préparation, évidemment par sa suspension. Il a eu finalement peu de temps de jeu dans les matchs de préparation, parce qu'il y avait l'objectif de préparer au mieux l'équipe sur le trophée des champions. Il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais il est en forme. La petite gêne qu'il avait veille de match face à Clermont a complètement disparu. Il est revenu très dynamique cette semaine. J'ai aucune crainte sur le fait que Kylian soit rapidement dans le rythme. Après, sur la durée du match, on verra. Évidemment que c'était un gros atout supplémentaire d'avoir Kylian avec nous.
Voilà, Christophe Galtier, le coach du Paris Saint-Germain. Mais on ne va pas dire qu'il y a de la pression sur Mbappé, Arthur.
Non.
Mais, mine non. de rien, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple pour lui de rentrer dans l'équipe sans que Neymar et Messi aient ce niveau de jeu-là? Parce que là, on se dit quand même qu'il va falloir qu'il s'intègre aux autres.
Oui.
Et que ça tourne toujours aussi bien, quoi.
Il y aura, c'est vrai qu'il y aura quand même une attention particulière sur lui. Pas de pression, tu as raison, parce que lui a sans doute hâte. Et c'est vrai que ça s'est ressenti tout au long des séances d'entraînement cette semaine du côté du camp des loges. Lui a hâte vraiment de débuter ce championnat, hâte de montrer que lui aussi est capable d'être au rendez-vous. Christophe Galtier l'a dit au Japon lors de ses premières conférences de presse en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il avait dit: Mbappé a beaucoup d'ambition personnelle, mais aussi collective. Et oui. Là, ça va être le moment déjà de répondre à cette affirmation-là, de prouver que oui, il a décidé de rester au Paris Saint-Germain, que oui, il y a eu des changements dans le projet, dans le changement tactique aussi, mais qu'il va falloir qu'il réponde présent. Et c'est ce premier rendez-vous face à Montpellier ce soir.
Alors, bien évidemment aussi Arthur, hein, il est 14h11 dans l'Intégral Sport sur RMC, si vous nous rejoignez, on parle du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier qui aura lieu ce soir, on présente cette deuxième journée de Ligue 1, je vous rappelle d'ailleurs que hier, Nantes et Lille ont fait match nul, un partout, c'était un très bon match d'ailleurs, franchement malgré le match nul, on sent qu'en tout cas dans notre Ligue 1, pour cette deuxième journée de championnat, on est un peu sur les mêmes principes de jeu de la saison dernière, avec des coachs qui veulent justement aller vers l'avant, marquer des buts, et franchement c'était assez intéressant. Bien sûr, au Paris Saint-Germain, ce qui rythme un peu la vie à 15 jours de la fin du mercato, Arthur, bah c'est ce marché des transferts.
Oui, avec, on le rappelle, des joueurs qui sont toujours écartés, comme Thilo Kehrer, Levin Kurzawa, Ander Herrera, qui est annoncé en partance du côté de l'Athletic Club en Espagne. Et à côté de cela, c'est vrai qu'on travaille toujours au Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées. On sait que le Paris Saint-Germain cherche encore à se renforcer défensivement, au milieu de terrain, et aussi offensivement, tout en ayant conscience du côté du board parisien que ce sera compliqué. Et d'ailleurs, on sent très bien que les profils ciblés, ce sont des joueurs dont il reste une année de contrat.
Oui.
Et sinon, c'est des joueurs en fin de contrat ou des joueurs libres. Donc, il va
mais
vraiment.
Pourtant, le PSG a vendu Kalim Wendo dans la semaine et oui. A fait rentrer un peu de sous.
Alors, ça va sans doute permettre de débloquer un dossier. C'est celui, justement, dans le secteur défensif, celui de Milan Skriniar. Parce que c'est vrai que ce dossier a connu différentes phases de stagnation. Où il y avait toujours des discussions, mais où le Paris Saint-Germain se retrouvait face à un Inter Milan qui était très ferme dans les négociations, qui dès le départ a dit pour Skriniar ce sera 70 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que l'Inter Milan est aussi conscient que à ce moment-là, le 13 août, c'est très difficile de trouver un défenseur central
eh ben oui.
De son calibre pour le remplacer. Donc ça explique aussi
faut
ce montant.
Qu'il puisse y retrouver. Ouais.
Ça explique aussi ce montant aussi élevé. Donc ce qu'on peut dire, c'est que il y a toujours des discussions entre les deux clubs. Que ça continue d'avancer et que le fait d'avoir rentré ces 25 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain, on pourrait très vite l'utiliser pour clôturer ce dossier Milan Skriniar. Voilà.
Et puis Arthur, y a quand même quelque chose avec ce Paris Saint-Germain-là, version Christophe Galtier, ce sont les conférences de presse du coach français quand on lui parle de mercato. Il y a d'une transparence assez nette, hein,
on l'a
notamment sur le cas des joueurs qui sont en instance de départ.
Voilà, alors je vous en ai cité quelques-uns, notamment Thilo Kehrer et Levin Kurzawa. On parlait du secteur offensif. C'est vrai qu'une arrivée dans le secteur offensif est aussi conditionnée à un départ. Et on sait que dans les joueurs qui sont invités à trouver une porte de sortie, il y a notamment Mauro Icardi qui a donc été écarté par Christophe Galtier et son staff. On sait qu'il y a un intérêt de Monza qui en retour, voilà, exactement, demander à ce que le Paris Saint-Germain prenne en charge 60% du salaire.
Ouais.
On sait que le montant du transfert est aussi élevé. Et la question a été posée à Christophe Galtier hier sur ce statut aujourd'hui de Mauro Icardi. Je vous propose d'écouter la réponse du coach parisien.
Il a rejoint le groupe des sessions de l'après-midi. Son absence le week-end dernier était liée à un choix purement sportif. J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que je vais restreindre encore le groupe. Est-ce qu'il a des propositions? Est-ce qu'il a des sollicitations? Quels sont ses souhaits? Je ne le sais pas. Le club travaille en étroite collaboration aussi avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. À un certain moment, le fait de changer de lieu, de changer d'endroit, de retrouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière.
Bon voilà, pas de place au doute, hein. En gros, c'est Mauro, il faut que tu partes parce que sinon tu joueras en réserve, quoi.
Surtout qu'il veut il veut occuper une place de titulaire indiscutable, Mauro Icardi, il l'a toujours dit, il l'a toujours clamé haut et fort. Donc là c'est très fermé au Paris Saint-Germain. On sait que derrière Kylian Mbappé, il y a aussi Pablo Sarabia qui a pris beaucoup de temps de jeu. Bon, il y a Arnaud Kalimuendo qui est parti, mais il y a aussi d'autres pistes qui ont été activées, notamment celle de Marcus Rashford. Voilà, le Paris Saint-Germain cherche déjà d'autres solutions à ce poste.
Et justement, vous avez posé la question en conférence de presse à Christophe Galtier sur la recherche d'un éventuel attaquant. La réponse du coach parisien.
Oui, on souhaite l'arrivée d'un autre attaquant. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, il y a ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce joueur va arriver? Moi, on n'a aucune garantie sur cela. Il faudra pas. Je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler un joueur. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Et le club travaille dans ce sens-là.
Ouais, il veut un nouvel attaquant. Christophe Galtier, est-ce qu'on a des noms, Arthur?
Alors, il y a un premier nom qui est sorti avant-hier par nos confrères de l'équipe que nous avons pu confirmer assez rapidement. C'est celui de Marcus Rashford, le joueur de Manchester United qui a connu deux dernières saisons assez compliquées en Angleterre, qui a pour son avantage de s'entendre très bien avec Kylian Mbappé.
Voilà. Et c'est un petit avantage en ce moment au PSG quand même.
Oui, hein, ça a quand même un avantage. Ce qu'on peut vous dire, c'est que des discussions ont débuté avec l'entourage de Marcus Rashford et notamment son frère qui est aussi son agent. Une rencontre a été organisée, mais le dossier est très complexe. Et hier, en conférence de presse, l'entraîneur mancunien Erik ten Hag a d'ailleurs indiqué que pour lui, Marcus Rashford devait rester, qu'il faisait partie de son effectif. Et donc, il n'était pas invité à partir. Autre dossier étudié par le Paris Saint-Germain, c'est un profil que Luis Campos, le conseiller sportif, apprécie particulièrement depuis très longtemps. Oui. C'est celui de Raphaël Léao qui joue du côté du Milan AC, qui est d'ailleurs dans les nominés pour le prochain Ballon d'Or. Il sort d'une saison incroyable.
Il a joué à Lille avec Campos.
Exactement, ils se connaissent très très bien. Ouais. Là aussi, opération financière très compliquée. Le transfert est estimé à 70 millions d'euros. Il y a une clause libératoire qui s'élève à 150 millions d'euros. Peut-être le seul levier de négociation pour le Paris Saint-Germain, c'est Abdou Diallo, qui est lui aussi convoité par le Milan AC. Il pourrait être introduit dans cette transaction, ouais, pour faire baisser justement le montant du transfert. Mais voilà, ça reste là aussi un dossier très très compliqué pour le Paris Saint-Germain.
Rapidement, Arthur, est-ce que ça peut bouger là dans la semaine, dans les jours à venir, ou on prend son temps côté PSG?
Ça continue de bouger. La volonté des dirigeants parisiens, c'est de boucler ce mercato le plus tôt possible, aussi pour permettre à ces joueurs de s'intégrer le plus tôt possible dans la saison.
Il reste 15 jours, donc
voilà. Mais on est déjà à la deuxième journée aussi, donc faut aussi penser à ça. Il y a un dossier qui lui aussi avance très bien, c'est celui de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un accord contractuel déjà entre le Paris Saint-Germain et le milieu de terrain de Naples. Les deux clubs, Naples et le Paris Saint-Germain, sont en discussion et tout ça aussi pourrait être bouclé assez rapidement.
Merci beaucoup Arthur Perrault, reporter à AMC Sport qui suit le Paris Saint-Germain pour nous. Je vous rappelle ce match entre le PSG et Montpellier, ce sera avec Clément Brossard et Julien Landry à 21h sur RMC. Bien évidemment, on rentrera dans la préparation de ce match un petit peu plus tard avec nos envoyés spéciaux. Il est 14h18, vous êtes dans l'Intégral Sport sur RMC. Dans quelques minutes, on va présenter le premier choc de la saison de Ligue 1. Ce sera à 17h, Monaco reçoit Rennes. Et à partir de 15h, on a de la Ligue 2 en direct, Guingamp Paris FC. C'est un gros choc parce que les Guingampais sont leaders du championnat. À partir de 15h, on va également se plonger dans tous nos championnats d'Europe. Championnat d'Europe de natation, championnat d'Europe de cyclisme sur piste, d'escalade, de triathlon, de BMX. On a des chances de médailles françaises dans toutes ces disciplines, ça ce sera à partir de 15h. Vous restez avec nous, c'est l'Intégral Sport sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Nicolas Paolorsi.
14h24, c'est l'Intégral Sport sur RMC. Dans une grosse demi-heure, le début de la troisième journée de Ligue 2 avec un choc entre Guingamp, leader du championnat, et le Paris FC. On sera bien évidemment avec Xavier Grimaud pour présenter ce match dans quelques instants et on suivra ce match en direct. Je vous rappelle le Multi Ligue 2 à 19h. Il y a notamment les Girondins de Bordeaux qui affrontent Niort et on sera sur toutes les autres pelouses. Je vous rappelle le programme de la Ligue 1 à 17h, premier choc entre deux grosses équipes de notre championnat. C'est la deuxième journée de L1. Monaco qui reçoit Rennes. Monaco qui a été éliminé en Ligue des Champions face à des Rennais qui ont perdu la semaine passée. Donc deux équipes qui doivent encore lancer leur saison à 21h. PSG Montpellier. Et puis à partir de 15h, on va se plonger dans les différents championnats européens qui ont lieu tout au long du week-end. On est partout sur RMC. On est en Italie avec Julien Richard pour les championnats d'Europe de natation. Il y aura la finale du 100 mètres nage libre avec notre Français Maxime Brousset qui a une grande chance de médaille. À Munich, en Allemagne, ce sont Morgan Mori et Valentin Jamin qui suivent les épreuves de BMX, de cyclisme sur piste, de triathlon, d'escalade, et j'en oublie, il y a plein d'événements. Donc ça va être une après-midi très riche. Il est 14h25 sur RMC, c'est l'Intégral Sport, et nous, on va rester dans notre journée de Ligue 1. Après avoir présenté le match du Paris Saint-Germain tout à l'heure avec Arthur Perrault, on va accueillir Maxime Thillette qui va commenter pour nous tout à l'heure la rencontre entre Monaco et Rennes. Salut Maxime.
Salut Nicolas, bonjour à tous.
Maxime, alors toi, je sais pas toi, mais ce match, nous à la rédaction, quand on en parlait ce matin, il nous excite un peu parce que c'est le premier gros choc du championnat entre deux équipes qui jouent le podium, Monaco et Rennes. Du côté de Monaco, quand même, il va falloir digérer, Maxime, cette déception de l'élimination en Ligue des Champions dans la semaine. Comment sont les Monégasques là, avant d'affronter les Rennais tout à l'heure?
Oui, on a hâte de voir leur réaction, hein, retour à la compétition après ces 120 minutes disputées à Eindhoven. Bon, le groupe monégasque a vécu une semaine traditionnelle, on n'a pas chamboulé le programme, entraînement le lendemain du match le matin à Eindhoven, puis retour en principauté, des entraînements avec beaucoup de petits jeux, pas mal de choses ludiques, hein, pour essayer d'apporter un peu de sourire à ce groupe, mais qui rebondit plutôt bien. Du moins, ce sont les ressentis de Paul Mitchell, hein, le directeur sportif, et de Philippe Clément, l'entraîneur, qui estime que ce groupe est mieux armé mentalement mais aussi physiquement par rapport à l'an passé et l'élimination face au Shakhtar à peu près au même stade de la compétition. Donc Monaco en théorie se sent plutôt bien.
Dis-moi, je suis en train de penser à un truc là, mais il va pas faire trop chaud tout à l'heure à 17h parce qu'avec ces vagues de canicule, ça peut être compliqué aussi de gérer physiquement cette donnée pour les deux équipes, hein.
Oui, il va falloir gérer ça. Bon, il y a un léger voile nuageux au-dessus de nos têtes, donc ça devrait le faire. Ils sont habitués aussi à se préparer, à s'entraîner sous ces conditions. Il y aura sans doute encore une petite pause fraîcheur, mais ça va être à prendre en compte, en effet. Oui.
Ouais. Bon, toi déjà, hydrate-toi pour être en forme sur RMC, c'est important.
Toujours.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour les deux équipes. On parlait de ce choc. Il y a aussi de l'enjeu côté Rennais, Maxime, parce que Rennes a perdu la semaine dernière contre Lorient, but contre son camp de théâtre, sa recrue en défense centrale. Les Rennais doivent lancer leur saison parce que c'est vrai qu'on les met, tous les observateurs, les mettent sur le podium, ou en tout cas avec l'ambition d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc il ne faut pas trop tarder, hein, pour lancer cette saison.
Oui, tu l'évoquais là, ce mercato avec Steve Mandanda, Joe Rodon et Arthur Théâtre dans l'axe, qui vont sans doute encore une fois être alignés et donc composer cette charnière centrale. Et puis Arnaud Kalimuendo qui vient d'arriver, donc recrutement XXL. Il y a eu des moyens qui ont été mis sur la table pour ces Rennais, qui ont été défaits par Lorient. Rennes qui en plus a beaucoup de mal à Monaco, hein, ça fait le dernier clean sheet Rennais, ça remonte à 2007. Et puis en face, en revanche, Monaco est sur une belle dynamique, hein, tout de même avec cette fin de saison l'an passé, on se souvient, avec là du coup 10 victoires et un match nul. C'est la série en cours. Le match nul, c'était face à Lens à la 38e journée. Les Rennais, eux, de leur côté, ont fini juste derrière ces Monégasques qui avaient fini 3e.
Ouais, mais c'est vrai que tu en parlais. Il va falloir vraiment scruter la performance d'Arnaud Kalimuendo, recruté pour 25 millions d'euros, hein, au Paris Saint-Germain. Il a 20 ans, il sort d'une saison à 12 buts en Ligue 1. La tendance, est-ce que tu as déjà une petite tendance sur les deux compos d'équipe, Maxime?
Bah alors, juste pour
il devrait démarrer Kalimuendo ou pas, ouais.
Bah, il a fait son premier entraînement collectif seulement hier matin, donc ça risque d'être un petit peu juste. Après, Gaëtan Laborde, lui, est là depuis un moment. Il a pas fait une très grande performance le week-end passé. Son nom est, on parle de lui du côté de Newcastle, notamment à l'étranger. Donc, bon, il y a une petite incertitude, mais en théorie, la logique serait d'aligner Gaëtan Laborde, hein, la continuité. Lui qui a eu une semaine aussi pour se préparer. Donc, il part avec une petite longueur d'avance. Dans les buts, évidemment, Steve Mandanda. La défense, Amari Traoré, qui devrait hérité du brassard, porter le brassard de capitaine. Cette charnière new look, donc, avec Arthur Théâtre et Joe Rodon, avec le jeune Truffert dans le couloir gauche, jeune désormais expérimenté tout de même malgré ses 20 ans. Oui. Le milieu à 3, Santa Maria, Magère, Été. Et puis devant, incertitude dans le couloir droit entre Benjamin Bourigeau ou Jérémy Doku. Terrier devrait occuper le couloir gauche et donc dans l'axe, Gaëtan Laborde. Côté monégasque, alors, Alexandre.
Ouais, est-ce qu'on fait tourner côté monégasque par rapport à Eindhoven, à l'élimination?
Moyennement, parce que il y a des joueurs qui risquent encore d'enchaîner, notamment ceux qui ont joué les 120 minutes. Hein. Ils sont plusieurs, c'est le cas notamment dans les buts de Nubel. Il y a Vanderson, Dizazi et Maripane qui ont joué les 120 minutes, tout comme Fofana. Et en tout cas, ils risquent d'être de nouveau titularisés. Ça donnerait donc Nubel, Vanderson, Dizazi, Maripane, Caio Henrique, Fofana associé soit à Jean-Lucas, soit à Matadzo, pour l'interrogation, parce que Jean-Lucas était malade jeudi à l'entraînement. Il a loupé la séance. Il est pourtant présent dans le groupe. Matadzo, lui, avait été aligné face au PSV lors de la double confrontation. Devant, Diata et Golovin dans les couloirs. Et puis sans doute Ben Yedder associé à Mbolo dans l'axe. Ce serait leur première association en début de rencontre.
Tiens, Maxime, avant de te remercier, on parlait de Kalimuendo, de Joe Rondon, d'Arthur Théâtre, les recrues du Stade Rennais. Qu'est-ce que ça donne un peu les recrues de Monaco, toi qui les suis depuis leur reprise, Brelem Mbolo et Minamino qui arrivaient de Liverpool. On a la sensation qu'Embolo, lui, s'est plutôt bien intégré. Minamino, c'est un petit peu plus dur. Toi, comment tu le ressens?
Ouais, c'est ça, deux salles, deux ambiances. Mbolo qui lui parle français, allemand, qui a facilement pu s'intégrer, anglais évidemment, donc il s'est bien intégré. Et puis il a un profil totalement différent, hein, dans cet effectif. Il peut tenir le ballon, jouer en appui remise, en pivot, un peu comme Youssouf Fofana faisait allusion à son profil, qui lui rappelait un petit peu Islam Slimani, hein, quand il était du côté de l'ASM. Et puis Minamino, lui, du coup, a eu un petit peu moins de mal. Il a joué la double confrontation face au PSV dans le couloir droit, mais on a eu du mal à le trouver. Il a eu une très grosse occasion à l'aller qu'il n'a pas su concrétiser. Peut-être que dans le mental, ça aurait pu changer les choses, mais finalement, non, plutôt compliqué ses débuts, les débuts du japonais. Mais Philippe Clément va lui laisser du temps. Il est conscient que aussi il l'a fait démarrer lors de ses matchs européens et que c'est jamais forcément très facile. Hein. Au Bien début, les matchs sont plus fermés. Mbolo, lui, était là pour finir le travail avec des ailiers rapides également. Hein. Il finissait les matchs avec Gelson Martins d'un côté et Diata de l'autre. Donc ça partait dans tous les sens, ça courait très vite et c'est les défenseurs du PSV qui avaient le tourni, donc c'était pas les mêmes profils de match. Philippe Clément, en tout cas, s'appuie, il a un large effectif devant, beaucoup de concurrence, il y en a qui démarrent, il y en a qui terminent, et au final, c'est le coach qui l'évoquait, on sait pas vraiment qui sont les titulaires, il y a les titulaires qui démarrent et ceux qui terminent, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ça, c'est à Philippe Clément de trouver la bonne solution.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de rotation, c'est vrai, dans cette équipe de Monaco. Merci beaucoup, Maxime.
Merci à vous.
On a hâte
avec Flo Germain.
Exactement, de t'entendre aux commentaires avec Flo Germain. Ce sera à 17h. Parce que ce Monaco-Rennes, hein, c'est le premier match de cette deuxième journée de Ligue 1, avant le match entre le PSG et Montpellier. Il nous excite vraiment entre deux équipes qui comptent. Je vous rappelle hier le match nul, un partout entre Nantes et Lille. Tiens, je fais un petit point sur un résultat en Angleterre. En première ligue, Aston Villa mène à la mi-temps 1 contre Everton. Le match des coachs, on va dire, entre Steven Gerrard, l'ancienne légende de Liverpool, et Frank Lampard, l'ancienne légende de Chelsea. 1-0, but de Danny Ings. On va bien sûr suivre toutes les rencontres de PL, avec notamment à 16h Arsenal-Leicester. Puis il y a des matchs en Espagne également. Il y a le Barça qui joue ce soir à 21h. C'est la première journée en Espagne. Il y a des matchs en Allemagne. On reviendra bien sûr sur tous ces résultats dans l'intégral sport et l'intégral foot tout au long de l'après-midi. Il est 14h32 sur RMC, c'est l'intégral sport, mais je vous en parlais tout à l'heure, c'est aussi un week-end complètement multisport sur l'antenne de RMC parce qu'il y a des championnats d'Europe partout. En Allemagne, hein, avec Morgan Mori et Valentin Jamin, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste, d'escalade, de triathlon, il y a du BMX aussi ce soir à 19h, on va bien sûr suivre toutes ces épreuves, être à l'antenne avec nos sportifs qui remportent des médailles. Mais là, on va filer en Italie, à Rome, retrouver Julien Richard, notre spécialiste natation. Salut Julien.
Salut Nico, bonjour à toutes et à tous.
Julien qui fait mal à sa ligne en se gavant de rigatoni, de linguine. je te vois bien là-bas, tu dois te régaler là-bas.
Pas que.
Des pizzas, oh là là, tu dois être vraiment bien. Tu dois être vraiment bien.
Un petit faible pour la burrata, je ne dois rien te cacher. Un petit peu de jambon, de tomates et d'huile d'olive, évidemment.
Tu me donnes faim. Bon. J'ai mangé un petit peu tôt. J'avoue que là, avec ces fortes chaleurs, la burrata.
Ah, tu peux te le prendre à 4h, ça marche aussi.
Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, Julien, grosse journée ouais. À Rome pour nos championnats d'Europe de natation. Finale à partir de. Et demi-finale, hein, à suivre à partir des 18h. On a un super programme avec, bien sûr, le grand moment peut-être de la soirée, cette finale du 100 mètres nage libre avec notre Français Maxime Grousset, qui a des chances, hein, qui a des chances de médaille, Julien. Hein.
Oui, exactement. C'est la course reine et ça a un petit goût de revanche. On a envie de dire ce 100 mètres nage libre. Maxime Grousset, il y a un mois, il a décroché la médaille d'argent du 100 mètres nage libre au championnat du monde à Budapest. Il a été battu de 600e seulement par le Roumain David Popovici. On va en parler un peu plus longuement juste après. Mais c'est clairement la nouvelle star de la natation mondiale. Il a 17 ans seulement. Et les deux vont se retrouver tout à l'heure en finale. Alors, ils nageront pas côte à côte, parce que hier, Maxime Grousset a eu une grosse journée. Il a enchaîné la finale du 50 mètres papillon, médaille d'argent. Et 20 minutes plus tard, donc c'est vraiment rien, il a dû nager sa demi-finale du 100 mètres. Il a réalisé le 5e chrono des demi-finales. Et vous allez l'entendre dans la bouche de Maxime Grousset, même s'il le dit doucement, mais quand même, il y a de la revanche dans l'air.
Là, on n'est plus au championnat du monde, donc on verra ça l'année prochaine. Mais je pense que oui, il y a une petite revanche à prendre. Là, en plus, Miressi, il est en forme. Je vois notre papillonneur de l'extrême qui est aussi en forme. Donc voilà, il y a des choses à faire. On va essayer de monter sur la boîte et puis de prendre notre revanche. Bien sûr, bien sûr. Non mais je ne l'ai pas dit parce que justement, là pour l'instant, il est un peu trop haut, mais on verra en finale. Ça se trouve, il s'est un petit peu cramé là. Mais en tout cas, je pense que ça va être une belle course et puis rendez-vous demain quoi.
Il n'en parle même pas de Popovici, hein. Il en parle même
exactement.
Pas.
Exactement. Miresi, c'est l'Italien, hein, vice-champion d'Europe en 2021. Le papillonneur de l'extrême, c'est le Hongrois Christophe Milak, qui est recordman du monde du 100 et 200 papillons qui s'essaye au 100 mètres avec succès. Et puis, donc, vous avez entendu, effectivement, il ne cite pas de David Popovici, qui venait quelques secondes plus tôt de claquer un chrono monstrueux dans sa demi-finale, 46 secondes 98 centièmes, pour vous situer ce que ça donne. C'est à 7 centièmes seulement du record du monde établi ici même à Rome en 2009 par le Brésilien César Cielo. Souvenez-vous, c'était à l'époque des fameuses combinaisons magiques, donc il a frappé très très fort.
Mais alors justement, faut que tu nous présentes ce jeune nageur roumain qui a vraiment explosé aux Mondiaux. Alors ça fait quelques temps qu'il est là, il a cartonné lors de toutes les épreuves juniors, mais c'est un véritable phénomène. On a la sensation qu'il est là pour 10 ans, Popovici, qui va pulvériser tous les records. Et c'est une vraie personnalité dans le monde de la natation actuellement.
C'est vrai qu'on a presque oublié qu'il avait fait quatrième des Jeux Olympiques sur le 200 mètres alors qu'il avait 16 ans à peine. Il aura 18 ans en septembre. Champion du monde donc du 100 et du 200 mètres de nage libre à Budapest il y a un mois. Recordman du monde junior, donc plus très loin du record du monde du 100 mètres. Alors, pour vous le décrire physiquement, on est loin des sprinteurs aux gros muscles. Hein. Il est très longiligne et puis gueule de star. Quoi. Bluffant dans l'eau donc, mais aussi hors de l'eau. Bluffant de maturité. On l'a rencontré avec d'autres médias ici à Rome avant le début de la compétition. Il parle un anglais parfait, il a de la répartie, tout le temps souriant. Écoutez par exemple ce qu'il répond. Ouais, franchement, il y a d'avenir le petit gars. écoute ce qu'il répond quand on lui demande comment. Bah, il explique par exemple son explosion au plus haut niveau ces deux dernières années.
Erling Haaland was asked the same thing.
On a posé la même question à Erling Haaland après un grand match, après avoir explosé un peu comme je l'ai fait. Il ne savait pas trop parler anglais à l'époque, mais il avait très bien résumé ça en disant
he just said, work, hard work.
So it's really... C'est vraiment ça, beaucoup de travail, très dur, beaucoup de sacrifices. C'est vraiment une question de savoir à quel point tu as faim, et j'ai vraiment faim.
Really do want it bad.
En fait, il est trop parfait. Je pense qu'il va agacer pas mal de monde, lui.
Très bonne imitation d'Erling Haaland.
Ouais, c'est vrai.
Donc, vous l'entendez, il parle parfaitement anglais. Alors, il ne s'est pas expatrié dans une université américaine, comme ça peut souvent être le cas. Alors, je vais prendre des guillemets, mais dans les petits pays de la natation, même si la Roumanie, c'est quand même une nation forte de la natation. C'est un pur produit, vraiment made in Bucarest. Il n'a aucune intention de s'expatrier. Comme lui, son entraîneur est tout jeune, il a 32 ans. Ce qui lui arrive, c'est assez prodigieux. Hein. C'est le deuxième de l'histoire seulement à avoir réalisé le doublé aux Mondiaux 100 et 200 mètres. Mais lui, il s'amuse, il prend du fun, comme il le dit tout simplement.
Oh, everything is fun. Sport is fun.
Tout est fun. Le sport, c'est fun. Se mettre dans une fatigue extrême, être à deux doigts de vomir, avoir des lactates partout dans le corps, le sang qui remonte à la tête, c'est fun.
That's fun. I think sacrifice for me.
Le sacrifice pour moi, c'est juste ce que vous faites et que les autres ne feront pas. Et ça induit de vivre d'une façon différente. Par exemple, en termes de nutrition, de sommeil, de fête. Vous ne pouvez pas faire les choses que d'autres font. Mais ça m'est égal. Peut-être que j'aimerais aller à une fête, mais le lendemain, j'ai un entraînement à 6 ou 7 heures du matin. Mais je me rappelle pourquoi je fais ça. Et je retourne à ma vie d'asset.
14h38, on est dans l'intégrale sport sur RMC avec Julien Richard à Rome. On présente les finales de ce soir, championnat d'Europe de natation, et notamment cette finale du 100 mètres nage libre à 18h22 avec notre Français Maxime Grousset et David Popovici, le gendre idéal du coup. Est-ce qu'il ramène déjà du monde dans les piscines juste pour voir le phénomène? Parce qu'on a la sensation qu'il est, quand on l'écoute, ouais, c'est un peu comme Haaland, comme Mbappé, on a l'impression qu'il est programmé un peu pour ça, quoi.
Ouais, un peu au-dessus, quoi.
Ouais,
oui, clairement, pour te décrire ce qui s'est passé, c'est après les championnats du monde, chez les grands, hein, donc, à Budapest il y a un mois, il a participé au championnat d'Europe junior, parce qu'il est encore junior, et ils avaient lieu en Roumanie. C'est la première fois qu'il y avait une compétition internationale de cette envergure en Roumanie. Et évidemment, c'était la méga star. Et ce qu'il raconte, c'est que pour lui, c'est devenu dingue. Il ne peut plus marcher dans la rue en Roumanie sans être reconnu. Évidemment, c'est une méga star. Et autre anecdote sympa, c'est que quand il est arrivé ici à Rome, il y a des tribunes amovibles, on est sur un bassin extérieur qui est splendide d'ailleurs, des tribunes extérieures amovibles donc, et qui est en train d'être terminé de monter, et les ouvriers l'ont reconnu parce que c'était des ouvriers roumains et sont descendus, l'ont applaudi, l'ont acclamé, enfin voilà, ça, c'est pour vous donner une idée du retentissement chez lui en Roumanie, mais aussi ici dans le monde de la natation. Lui d'ailleurs dit clairement dans chez moi au pays et dans le monde de la natation, de la natation mondiale, clairement c'est devenu l'attraction numéro un. Ce qui est fou, c'est qu'il est très relax quoi, et très très relâché. Il vit sa nouvelle notoriété avec pas mal de détachement. Sa maman est professeur de philosophie. Je vous parlais d'un garçon bluffant. Écoutez ce qu'il dit aussi à ce sujet, parce que lui aussi est un grand amateur de philosophie. Je peux utiliser ces connaissances pour le sport et dans le jeu mental. Mon entraîneur m'a d'abord parlé de stoïcisme et de philosophie en général. Il y a beaucoup à apprendre de ça et c'est une super connexion, particulièrement le stoïcisme, avec le sport. Je l'utilise dans ma vie de tous les jours quand je veux me motiver à plonger dans l'eau froide, par exemple. La base du stoïcisme, c'est de vivre une vie heureuse et ça m'aide à vivre une vie heureuse.
Non mais là il en fait trop. Donc le gars, c'est un super nageur, il gagne tout à 16-17 ans, il est beau, il a une gueule de star et en plus il est intelligent.
Ça commence à faire beaucoup.
Ah, ça commence à faire beaucoup, là je suis jaloux moi. Je t'avoue que je suis jaloux.
Bon après voilà, il est très jeune et il a encore beaucoup de temps devant lui, mais c'est sûr que là ce qui et d'ailleurs il spécialise de 100 mètres et de 200 mètres et là il va s'essayer sur le 400 mètres. Donc on a hâte de voir ce qu'il va aussi donner sur cette distance. Il fait ça pour s'amuser, mais bon, quand même on aura un petit œil sur ça parce que il peut aussi avoir une palette assez large.
Bon, c'est l'attraction en tout cas de cette finale du 100 mètres nage libre à 18h22 avec notre Français Maxime Grousset, hein, Julien, qui a vraiment, vraiment des espoirs et un objectif de médaille. Ouais. Mais il n'y a pas que ça ce soir. Il n'y a pas que ça ce soir. Il y a notamment à 18h10 la finale du 200 mètres d'eau avec deux Français, Mewen Tomac et Johan Ndoye Brouard. Il faut que tu nous racontes, Julien, l'histoire assez dingue de Johan Ndoye Brouard, bon, qui est habitué aux histoires totalement folles. Ça avait déjà été le cas l'année dernière. Et là, encore une fois, il a vécu un truc de dingue. Hein.
Oui, puisque l'an dernier, vous vous souvenez qu'à Tokyo, Jeux Olympiques, il avait heurté le mur au moment du virage. C'était une image rarissime. Alors, il y avait une explication, c'est qu'il souffrait d'une maladie aux yeux. Il s'est fait opérer depuis, donc il a été ébloui par les spots. Mais bon, c'était quand même rarissime. Et hier, il s'est encore passé un truc assez rare, mais qu'on avait déjà vu. C'est-à-dire qu'au départ, au moment du départ, en dos, on part dans l'eau. Hein. On n'est pas sur le plot. Et depuis quelques années, il y a une espèce de cale-pied que l'on fixe juste au moment du départ et qui a enlevé. Donc c'est amovible. Et ce cale-pied, au moment du départ de Johan, il a cédé sous la pression, sous la force déployée peut-être. En tout cas, il a craqué. Ce qui fait qu'il a complètement foiré son départ, hein, faut le dire comme ça. Et il n'a même pas nagé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris le temps de nager. Il est sorti de l'eau. Et finalement, on l'a autorisé à nager tout seul
cette
demi-finale à la fin complète des épreuves, parce que c'est pas de sa faute, c'était pas de son c'était une erreur technique de matériel. C'était déjà arrivé à un Italien à Guangzhou en 2019 au championnat du monde, ça lui était même arrivé deux fois à l'Italien. Et au final il a nagé tout seul, au final il s'est qualifié pour la finale de ce soir avec le deuxième chrono. Il était pas loin du tout de son record de France à 29 centièmes. Une soirée, on va dire, riche en émotions pour Johan Ndoye Brouard.
Ouais, ascenseur émotionnel. Dès que ça a cassé, je me suis dit, bon bah, quitte à être disqualifié, ne force pas. Donc je me suis dit, je sors direct. Mais j'entendais le public qui ovationnait la course devant moi. Je me disais, putain, mais c'est mort, ils vont pas me faire renager. Donc j'ai eu un peu les larmes qui sont montées, j'étais vachement ému, je sais pas pourquoi. Je me sentais quand même vachement seul, je sais pas. Et tout de suite, l'équipe de France, le DTN, etc. sont arrivés. Donc ça m'a fait du bien. Puis après, ils m'ont vite annoncé que ce sera à 20h05. Bon, ils m'ont encore fait attendre là-bas, c'était à 20h30 au final. Mais c'est l'adaptation, ça montre que je suis capable de répondre sous la pression.
C'est vrai que lui, mentalement, quand même, il vit des trucs assez dingues, hein, Johan Ndoye Brouard.
Mais un truc marrant d'ailleurs, Nico, c'est que à Tokyo, aux Jeux Olympiques, la demi-finale du 100 mètres d'eau, juste à côté de lui, il y avait Mewen Tomac qui nageait. Et ça l'avait un peu perturbé d'ailleurs de pas comprendre pourquoi il était à côté de lui, puis d'un coup, il était plus à côté de lui. Et ben là, hier, en demi-finale, pareil, il était dans la ligne d'à côté, et pareil, il s'est dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est encore passé, pourquoi il est pas à côté de moi, il est trop devant, ou il est, qu'est-ce qui se passe. Donc ça l'a lui aussi encore un peu perturbé sur ce coup-là, mais bon, rien de grave, hein, il est qualifié pour la finale, mais voilà, pour signer qu'à chaque fois ça s'est passé à côté de
bon, on aimerait bien quand même que l'histoire un peu s'inverse et qu'il reparte avec une médaille, parce qu'il le mérite quand même avec tout ce qu'il vit. Ça serait sympa d'inverser un petit peu le scénario de toutes ces péripéties. Julien, rapidement, mais la suite du programme, on a notamment Marie Vatel qui est en finale du 50 mètres papillon, et qu'est-ce qu'on aura d'autre à vivre ce soir sur RMC avec toi?
Alors Marie Vatel en finale du 50 mètres papillon, deuxième temps, hein, derrière celle qui est quasiment intouchable, la record du woman du monde, la suédoise Sara Sjöström sur le 50 mètres papillon. Elle a réduit son programme, Marie Vatel, hein, elle fait juste 50 papillons, 50 nageibles et le 100 mètres papillon, sur lequel elle a des gros objectifs, elle qui a décroché la médaille d'argent au championnat du monde il y a donc un mois. On aura deux autres Français en finale avec Damien Joly et Joris Bouchot en finale du 800 mètres nage libre. Il y a de la grosse concurrence, mais pourquoi pas pour Damien Joly d'aller chercher un podium. Les filles du 4x100 mètres nage libre n'ont pas nagé ce matin le relais, il n'y avait pas besoin, il y avait 8 équipes, donc elles sont directement qualifiées en finale. Ça, c'est difficile de lire ce qui peut se passer, mais ça va être compliqué d'aller chercher le podium. Et puis on va jeter un œil sur les demi-finales du 50 mètres d'eau dames, Nico, puisqu'il y a deux des grands talents futurs de la natation française qui sont alignés. Analia Pigré, médaillée de bronze au dernier championnat du monde sur cette distance, et Marie-Ambre Molu, qui est encore une junior et qui s'est qualifiée elle aussi, gros niveau sur le dos féminin. Et puis il y aura Antoine Vicra sur le 200 mètres brasse messieurs et Clément Secchi sur le 100 mètres papillon messieurs.
Ouais, important, hein, en vue de Paris 2024, de voir tous ces nageurs. Julien, merci, repose-toi, récupère bien, début des finales à 18h, on sera avec toi sur RMC. Remercie le monsieur qui fait de la flûte traversière derrière toi aussi, j'entends une petite musique là avec les grillons. Ça met une ambiance un peu zen, c'était très sympa.
Ouais, tu m'as sorti de ma sieste du coup, tu vois. Je vais aller faire des glucides et manger quelques pâtes.
Ah non, mais c'est très joli ce qu'il joue, hein, en tout cas. Je sais pas si dans votre voiture, si vous êtes sur la route, vous arrivez à entendre cette flûte traversière, mais en tout cas, nous en studio, on
l'entend.
C'est
la musique de la natation synchronisée aussi. Il y a des de natation synchronisée, d'accord. Pas très loin.
Ah, c'est très joli, c'est très apaisant. 14h46, merci beaucoup, Julien. On te retrouve ce soir sur RMC. Dans quelques instants, nous, on va se plonger dans l'avant-match de notre troisième journée de Ligue 2. Oui, ouverture de la troisième journée avec l'on avant Guingamp, leader du championnat, qui affronte le Paris FC. Vous restez avec nous, c'est l'Intégral Sport sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Nicolas Paolorsi.
14h48, vous êtes dans l'Intégral Sport sur RMC. On va se régaler du sport jusqu'à minuit avec de la Ligue 2. Dans quelques instants, on sera à Guingamp avec Xavier Grimaud. Guingamp Paris FC, c'est la troisième journée de L2 à 19h. Le Multi Ligue 2. On sera sur toutes les pelouses avec notamment un Girondin de Bordeaux, Niort, qui sera intéressant à suivre. Il y a de la Ligue 1, bien évidemment. On en a parlé, hein, en début d'Intégral Sport. Mais à 17h, Monaco-Rennes. Il va être intéressant ce match. À 21h, le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé affronte Montpellier. Et puis on sera dans une grosse demi-heure avec nos envoyés spéciaux, nos reporters Morgane Maury et Valentin Jamin, qui sont à Munich en Allemagne. Championnat d'Europe, des championnats d'Europe dans tous les sens, de cyclisme sur piste, d'escalade. Il y a du BMX à 19h avec Anthony Jean-Jean, qui a une grande chance de médaille. Il y a du triathlon notamment avec un triathlète français, Léo Bergère, qui fait partie des grands favoris. On aura des médailles et tout ça, ce sera à suivre sur RMC. Mais à 14h49 dans l'Intégral Sport, on va filer à Guingamp, retrouver Xavier Grimaud pour ce match de Ligue 2 entre l'en avant Guingamp et le Paris FC. Salut Xavier.
Salut Nicolas, bonjour à tous.
Il est excitant aussi ce match, Xavier, parce que l'en avant Guingamp est leader de Ligue 2 et parce que les Guingampais jouent bien depuis le début de saison. On sent que Stéphane Dubon, l'ancien coach qui était l'adjoint notamment de David Guillon à Reims, a vraiment réussi à poser sa patte, hein, sur l'équipe de Guingamp, et il propose un super niveau de jeu.
Ouais, exactement. Il a mis 6 mois, c'est sa deuxième saison, hein, Stéphane Dubon sur le banc de Guingamp. Il aura mis 6 mois, 7 mois peut-être à mettre sa patte sur le groupe, parce que déjà la fin de saison dernière des Guingampais a été plutôt très bonne, avec 9 victoires, 3 nuls sur les 15 derniers matchs, et un jeu qui était loué par tous les autres pensionnaires de Ligue 2. Donc du coup, on mettait Guingamp comme outsider potentiel pour se mêler à la lutte, même si la lutte, elle sera terrible, vu que, comme vous le savez, hein, et il faut le rappeler, il n'y aura que deux clubs qui monteront directement, il n'y aura pas de barrage, donc ce sera très très chaud. Et clairement, Guingamp a impressionné en ce début de saison, 2 victoires de suite. Bah, la preuve, c'est que ça n'était pas arrivé dans l'histoire du club guingampais depuis 1985 de débuter la compétition, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou Nationale, par 2 victoires. Donc c'est une vraie performance, même si tout n'a pas été parfait à Laval. Les Guingampais s'en sont sortis partie, notamment grâce à un but. J'espère que vous l'avez vu.
C'est, peut-être déjà le but de la saison.
La demi-volée à 35 mètres de Jérémy Livolant qui termine dans la lucarne. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs, c'est pas anodin, sur le site officiel, le Twitter officiel de la FIFA,
qui
disait: est-ce qu'on a un prétendant pour le trophée Puskas? Vous savez, Puskas, le trophée du meilleur but, du plus beau but de l'année. Donc voilà, pourquoi pas, après tout,
Jérémy Livolant qui postule.
Donc ça montre qu'il a fait un peu le tour de l'Europe, ce but. C'est vrai que c'est un très très joli but. Donc bref, Guingamp est assez sûr de lui, même si quand on regarde l'effectif, il manque peut-être encore un attaquant, un petit peu de joueurs au mercato qui devrait venir. Donc ça pourrait être un gros coup d'enchaîner une troisième victoire, surtout face au Paris FC qui a plutôt également bien débuté sa saison, un 0-0 face à Sochaux en ouverture, et la victoire peut-être un peu poussive, mais la victoire quand même face à Quevilly-Rouen la semaine dernière au stade Charletti. Le Paris FC 4e, la deuxième saison de Thierry Loret. Ils ont échoué quand même pas très loin de la course à la Ligue 1 et de la montée, éliminée en barrage par Sochaux la saison dernière. Donc c'est une grosse équipe. Quand on regarde l'effectif du Paris FC, il y a des joueurs qui sont rompus à la Ligue 2. Donc franchement, on a tout pour voir une belle affiche. Il fait très très chaud comme partout en France.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander.
Ouais, là on est à 37 degrés environ, je pense, au coup d'envoi. Donc ce sera évidemment une donnée, même si les footeux maintenant sont, comme tous les sportifs, sont certainement mieux préparés que nous pour encaisser cette chaleur.
Que moi, c'est sûr. Ouais. Que toi aussi, je pense que toi aussi.
Ouais, que moi aussi, ce sera une donnée à prendre en compte. Mais effectivement, c'est un peu assez excitant ce match. Et d'ailleurs, le Roudourou ne s'y est pas trompé, puisqu'on va approcher des 8, 9 000, 10 000 spectateurs peut-être.
Et coup d'envoi, Xavier, dans un peu plus de 7 minutes sur RMC. On revient très très vite te voir. C'est l'Intégral Sport, vous l'avez compris, il y a ce match entre Guingamp et le Paris FC, et puis on ira à Munich pour les championnats d'Europe de cyclisme sur piste, d'escalade, de triathlon. Il y aura du BMX également. On va vous présenter toutes nos chances de médailles. Ce sera dans l'après-midi que se dérouleront ces épreuves. 14h53, c'est l'Intégral Sport, vous restez avec nous sur RMC. À tout de suite. RMC
Intégral.